Vous êtes avec SBS French. Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au/french.
Journal des sports de ce dimanche avec tout d'abord le tournoi de Wimbledon. Ash Barty, l'Australienne, championne de 2021 en trois manches contre Karolina Plíšková, la Tchèque. Ash Barty, la première Australienne à remporter le Grand Chelem londonien depuis Yvonne Goolagong il y a 41 ans. On écoute Ash Barty.
It took me a long time to verbalize the fact that I wanted to dare to dream it and say I wanted to win this incredible tournament and being able to live out my dream right now with everyone here. This has made it better than I ever could have imagined. I didn't sleep a lot last night. I was thinking of all the what ifs, but I think when I was coming out on this court, I felt at home in a way, and I think being able to share that with everyone here, to share that with my team is incredible.
Un autre Australien, Dylan Alcott, a remporté son troisième Grand Chelem de cette année, cette fois à la finale à Wimbledon pour le tennis en fauteuil contre le Néerlandais Sam Schroeder, 6-2, 6-2. Ce dimanche, la finale des messieurs, Matteo Berrettini, l'italien, jouera contre Novak Djokovic, le serbe, qui va essayer de gagner son 20e grand chelem de sa carrière. On passe au Tour de France hier, 14e étape, avec la victoire du néerlandais Bauk Mollema. Tadej Pogacar garde le maillot jaune devant le français Guillaume Martin. Vendredi, Mark Cavendish a égalé le record de Eli Merckx, 34 victoires. Le français Julian Alaphilippe, son équipier, lui rend hommage.
C'est un plaisir tout simplement de se dévouer pour son équipier, encore plus quand c'est un ami et encore plus quand c'est pour Marc. Ça rend la victoire encore plus belle. C'est pas seulement un grand coureur, c'est aussi un super mec. Et quand on voit la carrière qu'il a fait, il a aussi toujours su rebondir après beaucoup de moments de doute ou beaucoup d'échecs. Et, ouais. Quand on voit tout simplement sa carrière, quoi, en général, pas seulement le nombre de victoires qu'il a sur le tour, mais tout ce qu'il a accompli. Je suis juste content de me dévouer pour lui, comme toute l'équipe le fait. Et voilà, c'est chouette.
Christian Prudhomme, le directeur du Tour de France, avait également ses mots à dire sur Cavendish.
Je me souviens, il y a 7 ou 8 ans peut-être, nous étions au Tour d'Oman. Nous avions parlé d'André Darrigade et j'avais demandé à Mark Cavendish s'il le connaissait. Et il m'avait répondu, Darrigade 22, Hino 28, Merckx 34. Je ne sais pas combien il avait de victoires d'étape à l'époque dans le Tour de France, peut-être 18, 19, 20, en tout cas moins que ce que je viens de citer. Sans doute avait-il ça déjà en tête. Peut-être une envie d'atteindre l'inaccessible qu'il vient de rejoindre. 34 victoires d'étape à 13 ans d'intervalle. C'est un sprinter phénoménal qui a tout connu, des très hauts et des très bas, qui avait sombré dans une dépression. Ça n'est évidemment pas le plus grand coureur de l'histoire du Tour de France, c'est Eddy Merckx. Mais lui, c'est sans aucun doute le plus grand sprinter de l'histoire du Tour, le plus grand sprinter de l'histoire du cyclisme.
On passe au foot, l'Euro, la finale ce dimanche, Italie contre l'Angleterre. Et tout de suite, on écoute Matteo Cioffi pour RFI et Thomas de Saint-Léger sur les préparations en Italie.
Si je vous dis qu'ici, on est en train de compter les minutes qui nous sépare au début de la finale. C'est un rendez-vous qui va mobiliser un pays entier qui, tout à petit, s'est lié profondément à cette nationale. Et bon, si les triomphes seront à l'appel, alors les places et les rues de la botte du nord au sud se rempliront des gens et là, à ce moment, la fête pourra commencer. Faut souligner que presque dans toutes les grandes villes italiennes, les écrans géants ont été interdits pour réduire les rassemblements. Le conseil est celui de rester à la maison devant son poste de télévision. Face à l'Espagne, 20 millions d'Italiens ont suivi la rencontre à la télé. Demain soir, ils seront encore plus. Et peut-être qu'ils arriveront même, nous les Italiens, on arrivera à battre ce fameux record de 27 millions et demi de personnes, de spectateurs qui avaient suivi en 1990, la demi-finale Italie-Argentine, et qui est le record absolu pour ce qui concerne l'audience à la télé.
Un peuple derrière son équipe, une équipe que tout le monde, j'imagine, dans la botte, pense invincible. Hein. C'est en général un petit peu comme ça chez vous. Je charrie un petit peu.
Oui, bien entendu, il ne faut pas exagérer, mais c'est vrai qu'il ne faut pas craindre l'Angleterre, mais seulement la respecter. C'est un peu ça le diktat qu'on a suivi ici en Italie, et comme a rappelé aussi aujourd'hui la presse transalpine, qui se serrait autour de la squadra, à l'image du pays entier. Viva l'Italia, a titré ce matin la Gazzetta dello Sport.
Et quant à Antoine Grenier, lui, il est en Angleterre, un aperçu de la finale avec Thomas de Saint-Léger à nouveau pour RFI.
Gareth Southgate qui réalise à la tête des Three Lions ce qu'il avait été tout près d'accomplir en tant que joueur, mais le 26 juin 96 dans l'ancien Wembley, son tir au but, le sixième de la demi-finale contre l'Allemagne, avait été arrêté par Andreas Koepke. Un déchirement pour le tout jeune défenseur, à l'époque 25 ans, critiqué aujourd'hui pour ses choix parfois frileux lors de cet Euro, notamment le fait de laisser Marcus Rashford, Phil Foden ou Jack Grealish sur le banc. Southgate est quand même en train de réussir son pari et il le fait avec le soutien de son groupe, notamment de John Stones, l'inamovible défenseur central des Three Lions, que Southgate a su remotiver après sa finale de Ligue des Champions perdue avec Manchester City.
Gareth a été joueur, donc il sait que ce type de match vous éprouve beaucoup. Il m'a permis de me reposer l'esprit, passer du temps avec ma famille, me vider la tête. C'est une des qualités de Gareth, il voit les choses différemment des autres. Grâce à lui, on l'a montré, on est calme et collectif. Dans d'autres circonstances, on aurait pu paniquer et se précipiter. Là, on s'est montré qu'on est capable d'être patient. Même si ce sont des moments de tension, difficiles pour les fans, on se prépare à l'entraînement pour les prolongations et les tirs au but.
Didier Deschamps reste le sélectionneur des Bleus jusqu'en 2022, du moins pour la Coupe du Monde. Et puis l'Espagnol Sergio Ramos est arrivé au Paris Saint-Germain. Achraf Hakimi, le Marocain de l'Inter Milan, est depuis mardi aussi un joueur du Paris Saint-Germain pour les 5 prochaines années. Les JO de Tokyo qui débuteront le 23 juillet prochain et il n'y aura pas de spectateurs, comme nous l'explique Cédric de Oliveira pour RFI.
Oui, inquiet de la reprise épidémique due au variant Delta du Covid, les autorités se sont résignées à organiser la compétition sans public. Les sportifs se sont fait une raison, comme le cycliste Benoît Cosnefroy qui fera partie de l'équipe de France de course sur route.
Forcément, c'est une partie du partage qui est en moins et le public fait partie des Jeux Olympiques. Donc c'est dommage, mais voilà, c'est en temps de Covid et il faut s'adapter. Donc la compétition a lieu, donc voilà, le côté sportif reste présent et c'est bien le principal pour moi, c'est pour ça que j'y vais. Mais donc voilà, après c'est sûr que c'est pas des conditions idéales ni pour le Japon qui nous accueille et qui prépare ça depuis plusieurs années. Donc voilà, la fête va être différente, mais le côté sportif va rester présent.
Qu'en pensent les athlètes africains? On écoute la réaction de Hugues Fabrice Zango.
Je suis vraiment très mental et lorsque je suis souvent dans mon truc, je ne calcule pratiquement plus ce qui se passe autour de moi. Même à Doha, je n'ai même pas demandé la clap une seule fois et tout cela. Donc c'était vraiment plus moi et moi et je suis suffisamment motivé. Voilà, une pression supplémentaire ou une motivation supplémentaire ne m'apportera presque. Le gain n'est pas forcément énorme pour moi. Et donc, je ferai le show et ceux qui seront derrière leurs écrans vont bien voir.
Un mot de rugby, la tournée du 15 de France en Australie. Le prochain match, c'est le 13 juillet au AAMI Park de Melbourne et le 17 juillet au Suncorp Stadium à Brisbane. Un mot du Grand Prix de Formule 1 d'Australie qui a été annulé, ainsi que le Grand Prix de MotoGP à Phillip Island en octobre. Le ministre des Sports du Victoria, Martin Pakula, a fait l'annonce suivante.
I fully expect that these events will occur in 2022. We're aiming for an early season F1 event next year and a MotoGP on a date to still be determined.
Voilà pour le journal des sports de ce dimanche. Vous écoutez Radio SBS, le programme en français.
Vous voulez entendre d'autres rubriques comme celle-ci ? Écoutez-les sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou n'importe où où vous obtenez vos podcasts.